Vous écoutez On lit pour vous.
Quand les commerçants viennent en aide aux itinérants, un texte de Jessica Nadeau, Marianne Laporte et Annabelle Moreau, paru le 11 août 2025 dans Le Devoir. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Pour les personnes vivant dans la rue, il n'est pas toujours évident d'avoir accès à des toilettes, à un verre d'eau fraîche ou à un endroit pour brancher son téléphone. Une initiative de l'organisme Plein Milieu vise à répondre à ces besoins grâce à un réseau d'établissements solidaires sur le plateau Mont-Royal. Le projet L'Oranger, inspiré de l'initiative La cloche et le carillon en France, est une première au Québec. C'est une initiative de solidarité, explique Andréane Tremblay, coordonnatrice des services en itinérance pour l'organisme Plein Milieu. On veut offrir des services aux personnes de la rue parce qu'il y a beaucoup de manques. Les services sont offerts par le biais de commerces et d'établissements membres de l'Oranger. Et ça répond clairement à un besoin, car les services offerts dans ce réseau ont été identifiés par les personnes de la rue. Les établissements membres ont un logo à l'entrée du commerce identifiant quels services sont offerts. Les gens peuvent en bénéficier gratuitement sans être contraints de faire un achat et on ne leur posera pas de questions. Le but, c'est juste de dire « Bonjour, je vois que vous êtes membre de l'Oranger. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Les gens se sentent les bienvenus. Ils ne vont pas essayer de rentrer en cachette pour aller aux toilettes. Ils vont rentrer en disant « bonjour ». L'organisme visite des commerces régulièrement pour savoir comment ça se passe et offre du soutien s'ils vivent des situations plus difficiles avec un usager. Même si le but premier est d'offrir des services aux personnes démunies, cela s'adresse à tout le monde. L'accès aux toilettes, plus spécifiquement, permet également d'atténuer les problèmes de cohabitation dans le secteur, estime Madame Tremblay, qui rappelle qu'une des principales causes de friction est que les gens font leurs besoins dans les ruelles, faute d'accès à des installations sanitaires. Le réseau compte présentement 17 établissements membres. Et ça fait boule de neige, constate Madame Tremblay. Mais au-delà du nombre, ce qui la rend le plus fière, ce sont les belles histoires humaines qui découlent de ces rencontres. Elle relate un cas vécu par une personne en situation d'itinérance qui fréquentait régulièrement un café membre à qui le personnel a offert un gâteau d'anniversaire avec une bougie le jour de sa fête. C'est ça qu'on veut avec ce projet-là, c'est créer du lien, insuffler de la solidarité, déstigmatiser, faire en sorte que les gens se sentent bienvenus, développer un sentiment d'appartenance au quartier, au commerce. Accès Naloxone, commerçants unis contre la crise des surdoses. Il y a quelques mois, à la suite du décès par surdose de personnes en situation d'itinérance dans le quartier, Leslie Chalal, coordonnatrice clinique à l'organisme Le Trac, basé à Verdun, a décidé de prendre le taureau par les cornes pour favoriser l'accès à la naloxone, un antidote temporaire aux surdoses d'opioïdes. Les trousses sont déjà disponibles en pharmacie et offerte par les organismes communautaires, mais elle voulait aller plus loin. Un truc qu'il faut savoir, c'est que la naloxone gèle l'hiver. Tu peux être en campement et avoir plein de trousses, mais si elles sont gelées, elles ne sont d'aucune utilité. Madame Chalal est allée cogner à la porte de la Société de développement commercial SDC Wellington pour lui parler de son projet Accès Naloxone. Elle souhaitait demander à des commerçants d'afficher un logo sur la porte indiquant qu'ils ont des trousses de naloxone qu'ils peuvent donner en cas de besoin. À sa plus grande surprise, la réponse a été extrêmement positive. Dans le climat actuel de tension, de friction, je n'en reviens pas d'avoir ces partenaires-là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et dans la rue, ça va envoyer un message fort pour les personnes vulnérables de voir qu'il y a une solidarité, affirme Madame Chalal, encore émue par la réponse positive des commerçants de Verdun. Sur l'invitation de la SDC, elle a fait une présentation à plusieurs commerçants qui ont pu poser des questions. Elle a fait tomber leurs craintes. L'administration par voie nasale est très simple. Il n'y a pas de contre-indication et la loi du bon samaritain les protège en cas de problème. La coordonnatrice s'assure aussi d'être disponible s'il y a des problèmes. Quelques commerçants ont embarqué, d'autres sont en réflexion. « On commence petit », précise Madame Chalal, qui espère développer le concept plus largement. « Pourquoi ça plaît ?»« Parce que c'est pragmatique », répond-elle. « Les problèmes sont tellement nombreux et complexes. Mais tu peux agir sur quelque chose. Et on parle quand même de vie ou de mort. » Elle avoue comprendre davantage les commerçants aux prises avec des problèmes de cohabitation depuis qu'elle travaille avec eux sur ce projet. Ce n'est pas leur problème. Mais ils sont au front parfois avec des gens inanimés dans leur porte d'entrée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pas tant de choses. Mais ça, ils peuvent le faire. On leur offre quelque chose de concret. C'était « Quand les commerçants viennent en aide aux itinérants », un texte de Jessica Nadeau, Marianne Laporte et Annabelle Moreau, paru le 11 août 2025 dans Le Devoir.
L'interprétation, domaine de préoccupation pour les Canadiennes et Canadiens sourds. Un texte de la rédaction paru sur le site web de l'Association des sourds du Canada. Le problème. Il existe au Canada un manque criant d'interprètes et une incompréhension généralisée de leur rôle. Notre position. L'interprétation professionnelle qualifiée est un droit qui assiste les personnes non sourdes dans leur communication avec les personnes sourdes. La plupart des sourds canadiens, dont la langue maternelle est la langue des signes, peuvent utiliser l'anglais ou le français comme une deuxième langue. La plupart des non-sourds canadiens ne peuvent utiliser le langage des signes comme deuxième ou troisième langue après l'anglais et ou le français. Les interprètes aident les non-sourds à surmonter leur obstacle linguistique afin de communiquer avec les personnes sourdes. L'Association des sourds du Canada, Canadian Association of the Deaf, considère qu'il est approprié pour les personnes non-sourdes de fournir les services d'un interprète qualifié dans toutes les circonstances impliquant la communication avec les personnes sourdes. C'est un droit de la personne que de communiquer, de même qu'une question de simple bon sens, de s'assurer que tant la personne non sourde que la personne sourde comprennent clairement l'information communiquée. Il existe un certain nombre de faiblesses dans le domaine de l'interprétation qui nous préoccupent, dont un nombre insuffisant d'interprètes, en particulier d'interprètes compétents, pour satisfaire la demande de leurs services. Trop peu de programmes de formation dont certains ont des normes plutôt basses pour la graduation des étudiants. La prolifération des agences de traduction des langues orales qui embauchent des personnes non qualifiées et sous-qualifiées, qui simplement connaissent un peu la langue des signes et les font passer pour des interprètes complètement qualifiés et vendent leurs services moins chers que des interprètes légitimes et qualifiés. Des fonds insuffisants pour les services d'interprètes, ce qui occasionne le rejet de plusieurs demandes de leurs services pour des raisons financières. Un manque d'information et de sensibilisation quant au coût des interprètes, en particulier dans le milieu du travail, ce qui a comme résultat le refus de nombreux employeurs de fournir des interprètes, au moins après l'entretien initial et la période de formation, puisqu'ils ne connaissent pas les sources possibles de financement ou les déductions fiscales des frais professionnels qui compensent ces coûts. Un manque de clarté et de compréhension généralisée concernant les droits aux interprètes des personnes sourdes. Par exemple, les employeurs demandent souvent à l'ASCCAD s'ils sont obligés de fournir des interprètes à toutes les réunions ou les formations pour un employé sourd après la période d'emploi initiale. Si l'accès et l'égalité doivent signifier quelque chose pour les personnes sourdes, ces problèmes doivent recevoir une priorité plus élevée que celle qu'ils ont reçue jusqu'à maintenant de la part des gouvernements fédéral et provinciaux et par d'autres organismes de financement. L'Association des sourds du Canada, Canadian Association of the Deaf, n'appuie que l'utilisation d'interprètes professionnels qualifiés qui sont membres de l'Association des interprètes de langue visuelle du Canada, AILC, ou l'Association québécoise des interprètes en langue des signes, AQILS. Les interprètes professionnels qui sont membres de l'AILVC, AQILS, sont régis par un code d'éthique et des lignes directrices professionnelles prévoyant le respect de la confidentialité, d'un décorum et de normes professionnelles. Ceci s'applique tant aux interprètes non sourds qu'aux interprètes sourds, d'ASL-LSQ. Nous ne considérons pas la famille, les amis, les connaissances, les travailleurs sociaux, les enseignants, les aides-enseignants, les ministres du culte ou autres comme étant qualifiés ou des interprètes professionnels. Dans des situations de haute importance, telles que des causes judiciaires ou des examens scolaires, nous insistons particulièrement sur l'utilisation exclusive d'interprètes dont les qualifications ont été certifiées par le Système canadien d'évaluation, SCE, et qui ont l'éducation ou l'expertise pour clairement comprendre et transmettre l'information spécialisée qui est présentée. Nous appuyons le droit des personnes sourdes de rejeter les services d'interprètes qu'ils considèrent comme incompétents ou incompatibles et d'exiger des interprètes spécifiques avec qui ils sont confortables. Dans une veine semblable, la personne sourde a le droit de déterminer quel langage sera utilisé par l'interprète, ASL-SLQ, système de signes, signes avec ou sans interprétation orale, etc. Nous encourageons fortement le perfectionnement, la reconnaissance, la formation et l'utilisation d'interprètes sourds de relais pour assister tant l'interprète non sourd que la personne sourde à assurer la pleine compréhension et la pleine communication. Nous encourageons fortement aussi une plus grande identification et une plus grande utilisation des intervenants sourds en culture sourde. Ces personnes doivent être des personnes sourdes capables d'adapter l'information pour la rendre compréhensible et exacte à l'intérieur des normes et valeurs de la culture sourde. L'ASCCAD est très préoccupée par le manque apparent de normes ou d'exigences minimales pour les interprètes du secteur de l'éducation. Des études ont démontré qu'il existe une différence nette de la qualité de l'interprétation des interprètes embauchés par les écoles. La qualité varie selon le niveau de compétence de l'interprète, sa capacité à communiquer l'information fournie par l'enseignant et l'élève, sa connaissance du contenu du cours, la qualité de communication entre l'élève et l'enseignant, et la performance scolaire générale de l'élève. On a souvent dit que des interprètes qui ne sont pas très compétents entrent dans l'interprétation éducationnelle simplement pour avoir la chance d'acquérir de l'expérience et de la confiance. Et cela constitue un des avantages pour l'élève ou les élèves sourds et qui doivent endurer une interprétation de piètre qualité durant la poursuite de leur éducation. Une interprétation par équipe qui mettrait ensemble un interprète plus faible avec un interprète confirmé permettrait à l'interprète faible d'améliorer ses qualifications sans désavantager l'élève sourd. Une autre préoccupation concernant l'état de l'interprétation scolaire est la tendance, commune à tous les gouvernements provinciaux du pays, de couper des dépenses en intégrant les étudiants sourds dans les écoles ordinaires, soit avec aucun soutien par interprétation, soit avec seulement un soutien partiel, par exemple avec des interprètes pour deux ou trois cours au lieu d'une journée scolaire complète, ou encore sur la base d'une interprétation en solo, c'est-à-dire sur la base d'un seul interprète. Les interprètes sont des êtres humains et l'interprétation est un travail mentalement et physiquement épuisant. Des études ont prouvé qu'après seulement une heure, un interprète de milieu scolaire travaillant seul est si fatigué que la leçon devient si remplie d'erreurs qu'elle en devient incompréhensible. C'est encore une raison que l'ASCCAD défend fortement l'interprétation en équipe ou tout au moins en binôme. La manière dont le système scolaire et les enseignants perçoivent le rôle de l'interprète scolaire est également très inquiétante. Trop souvent, on les perçoit comme un assistant supplémentaire dans la salle de classe, voué à jouer un double rôle. Ils sont considérés non seulement comme interprètes, mais également comme aide-enseignants. Il faut insister sur le fait qu'un interprète est uniquement un interprète et qu'un aide-enseignant est uniquement un aide-enseignant. Personne ne peut avoir une double casquette. À l'exception des interprètes et intervenants sourds, les interprètes ne doivent pas être considérés comme étant des experts ou des conseillers sur les questions touchant les sourds. Ils fournissent simplement leur talent dans la facilitation de la communication entre le sourd et les non-sourds. L'expertise sur les questions touchant les sourds et la culture sourde ne peut être fournie que par les sourds eux-mêmes. En raison de l'importance de l'interprétation et de la puissance évidente qu'un interprète peut avoir sur des clients sourds finis, puisqu'il ou elle contrôle l'information que le client sourd reçoit et donne, C'est notre position ferme que la fourniture du service d'interprétation doit être régie par des personnes sourdes et des organisations des sourds eux-mêmes. Donner aux non-sourds le contrôle de la fourniture de services d'interprétation est exactement la même chose que leur donner le contrôle de la communauté sourde, car ils contrôleraient notre accès à l'information et à la communication d'une manière qu'ils ne toléreraient jamais dans leur propre vie. Toute forme de contrôle non sourd de la communauté sourde est une forme d'oppression et de réduction du pouvoir de la communauté sourde et est donc totalement inacceptable. C'était l'interprétation, domaine de préoccupation pour les Canadiennes et Canadiens sourds. Un texte de la rédaction paru sur le site web de l'Association des sourds du Canada.
Je n'aime pas les vacances. Un texte de Jean-Christophe Réel, paru le 2 août 2025 dans Le Devoir. Les choix. Je m'assois au café et je m'achète un matcha à la lavande. Je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Probablement une envie soudaine de nouveauté ou un désir inconscient de sortir de ma zone de confort. Je trouve que ça goûte le poulpe. Une légère touche florale mêlée à quelque chose de salin et d'algal. Une erreur. Cette anecdote semble complètement banale et ennuyante, mais elle en dit beaucoup sur moi. Je suis de nature routinière. Quand j'aime quelque chose, je continue à le consommer, à l'écouter ou à le regarder. Pourquoi regarder autre chose si on a déjà trouvé ce qui nous plaît? Il y a quelque chose de profondément rassurant dans la répétition, dans la constance. C'est comme rentrer chez soi. Plusieurs diront que ceux et celles qui font toujours les mêmes choix sont prévisibles, rigides et peureux. Je répondrai simplement à ma défense que j'aime la familiarité, le connu, le confort de ce qui ne me surprend plus. L'inattendu me fatigue. L'inconnu m'épuise plus qu'il ne m'excite. Je crois aussi qu'il y a un âge pour essayer de nouvelles choses. Jusqu'à 30 ans, c'est encore le moment d'explorer, de tester, de se tromper. Après, je crois qu'on entre dans une zone critique où chaque déception semble plus lourde, presque tragique. Un plat raté devient une soirée gâchée. Un film décevant nous fait regretter les 2 heures perdues. Une conversation inutile laisse un arrière-goût d'agacement pour le reste de la journée. Certains diront qu'avec cette mentalité, on risque de passer à côté de belles découvertes. Peut-être. Mais si j'ai à choisir entre passer à côté de quelque chose de formidable ou d'être amèrement déçu, je préfère ne jamais entrer en contact avec cette chose formidable. L'ignorance, parfois, est une forme de paix. J'ai bu tout mon matcha. Il m'a quand même coûté 10 piastres. Les vacances. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté les vacances. Prendre des semaines, voire des mois de congé pour faire quoi? Aller dans le sud? L'horreur. Voyager. L'idée du voyage et des découvertes me plaît, bien sûr, qui n'a jamais rêvé de voir le Japon au printemps ou de marcher dans les rues pavées d'un vieux quartier européen. Mais cette idée, aussi séduisante soit-elle, vient avec tout un ensemble de contraintes que je ne veux pas vivre. La préparation des bagages, les listes interminables de choses à ne pas oublier, les transports épuisants, les retards, les enfants qui pleurent, les gens qui crient, il y a toujours un con pour crier quelque part. Et bien entendu, le coût exorbitant des moindres plaisirs. Et puis, il y a cette pression constante. Il faut absolument être heureux. On doit maximiser chaque minute. Est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on est vraiment en train d'en profiter? Parce qu'il faut vraiment en profiter. On est en vacances. Cette injonction au bonheur planifié me donne presque de l'urticaire. Comme si le fait de ne pas être extatique chaque seconde faisait de nous des ingrats. Je n'ai jamais été chanceux en vacances. Jamais bon non plus pour être heureux dans les moments programmés. Il y a toujours eu des accros. Un mal de dos qui traîne. Un rhume qui commence le jour du départ. Une fatigue étrange. Un mal de pied inexplicable. Et moi, avec mon expression figée entre la lassitude et l'irritation. L'air bête au pire moment, comme si mon corps refusait obstinément de se détendre sur commande. C'est censé être des moments où l'on décroche, où l'on se repose. Mais je n'ai jamais su faire ça. Mon esprit reste accroché à la liste mentale des choses à gérer, à la peur d'oublier quelque chose, à la météo qui change. Je ne sais pas ne rien faire. Je ne sais pas profiter sur commande. Peut-être que le vrai luxe pour moi, ce ne serait pas de partir, mais simplement d'avoir une journée, sans attente, sans pression, sans performance émotionnelle à livrer, une journée normale, mais sans culpabilité. L'eau et le chien. J'aime marcher sur la rue Sainte-Marie à La Noraie. Elle longe paisiblement le fleuve, offrant une vue calme et apaisante. Chaque fois, j'envie un peu les familles qui vivent dans ces belles maisons au bord de l'eau, avec leurs porches qui donnent presque sur les vagues. L'autre jour, je suis allé au quai de La Noraie avec mon chien. À droite du quai, une petite plage de cailloux se cache discrètement. J'ai ramassé une branche et l'ai lancée dans l'eau sans trop d'attente. Il l'a regardée flotter longtemps, hésitant. Puis, contre toute attente, il a fini par sauter à l'eau pour aller la chercher. Une grande première. Il n'avait jamais fait ça avant. Tout porte à croire qu'on peut changer, même quand on se pense figé dans ce qu'on connaît. Mon chien est beaucoup plus courageux que moi. C'était « Je n'aime pas les vacances », un texte de Jean-Christophe Réel paru le 2 août 2025 dans Le Devoir.